On vous a déjà souhaité à tous les bienvenus. Et d'ici, nous voulons aussi saluer tous dans le monde entier. Nous avons reçu des souhaits de bénédiction et des vœux de bénédiction de la Chine et de beaucoup de pays de la Terre. Ensuite, nous avons des salutations particulières aujourd'hui du frère Rousse, ensuite du frère Wallström, du frère Gilson, du frère Hilton, du frère Joseph, du frère Dr. Mbillé, du frère Etienne Genton, du frère Deo, du frère Graf, des salutations et encore une fois des salutations de partout, le frère John de Bucarest. Ensuite, nous avons des salutations de Moscou, des salutations de la Moldavie, des salutations de l'Ukraine, simplement de partout, de loin et de près, des salutations de ceux qui sont dans le Seigneur, liés avec nous. Et je voudrais aujourd'hui, très particulièrement, souhaiter la bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Avons-nous des amis parmi nous? Levez-vous, s'il vous plaît. Qui est là aujourd'hui pour la première fois? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, que Dieu le Seigneur vous bénisse, très particulièrement. Et ensuite, tous ceux qui n'étaient plus ici il y a depuis longtemps, que Dieu le Seigneur vous bénisse aussi. Et nous avons tout un bus plein de la Slovaquie, au moins, ils ont entrepris au moins 1250 kilomètres. Que Dieu vous bénisse d'une manière particulière. Ils ont entrepris au moins 1250 kilomètres. Et nous avons aussi des frères et des sœurs de l'Italie. Dans un tel grand nombre, nous n'en avons jamais eu de l'Italie, donc du sud jusqu'à Palermo, de partout. Que Dieu Seigneur vous bénisse particulièrement parmi nous. Ensuite, nous avons des amis de la République de la Tchèque, de la Pologne, vraiment de toute l'Europe, et que le Seigneur puisse bénir. Ensuite, des pays de l'Afrique, que Dieu le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit avec chacun de nous. Et l'Autriche et la Suisse aussi n'ont plus besoin de les mentionner. Et vous, tous vous appartenez déjà automatique à l'endroit ici, aussi la France, aussi les salutations de l'Amérique du Sud, de Lima, du Chili, vraiment de partout où des frères et des sœurs sont liés avec nous. Dr. Mbillé disait, frère Franck, nous sommes ici au moins 4000 personnes dans une réunion, et il dit que beaucoup de prédicateurs sont ici, et nous sommes simplement reconnaissants à Dieu, et encore une fois reconnaissants à Dieu, de ce que nous avons la possibilité d'écouter la parole précieuse de Dieu qui demeure éternellement dans le monde entier. Nous avons la grâce de donc d'ensemencer et de propager cette parole merveilleuse de Dieu en tant que la parole éternelle, et Dieu fera en sorte que sa parole ne revienne pas sans effet. Elle produira l'effet pour lequel elle est envoyée. Et aussi particulièrement à tous les jeunes. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup de jeunes parmi nous. S'il vous plaît, saisissez l'occasion. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Car aucun chemin Il n'y a pas un chemin en dehors de lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pourrons jamais l'éviter. Seulement celui qui véritablement l'a accepté, le reçoit, reçoit la vie éternelle. Et cela est aussi le cas pour nous, que ce soit pour les adolescents ou pour les personnes, pour les adultes. C'est la même chose. Et ces réunions-là que Dieu nous accorde, elles sont accordées pour la bénédiction de tous. Et nous espérons que ces remarques qui vont être encore faites, nous espérons qu'elles seront aussi considérées comme des remarques seulement en parenthèse. On ne peut pas ne pas venir à parler de ce qui se passe en ce moment sur Terre. On ne peut pas ne pas comme ça le mentionner. Le monde est dans une crise. L'Église est dans une crise. Israël est dans une crise. Tout, et encore une fois, tout est dans une crise. Et l'Église peut seulement, par Dieu lui-même, recevoir le secours. Par Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison que nous adressons nos prières au trône de Dieu, que cette réunion, que ces réunions-là puissent réellement servir à ce que dans le monde entier, le corps du Seigneur, l'Église du Dieu vivant, soit servi, soit servi. Et si parfois nous devons mentionner des choses qui sont nécessaires dans différents endroits dans le monde, peut-être pas ici dans l'assemblée locale, ici chez nous, mais sûrement quelque part d'autre dans le monde. Si nous le faisons, c'est seulement pour aider et servir tout le corps du Christ. Et nos traducteurs, nous leur souhaitons la grâce de Dieu. La présence de Dieu et la force de Dieu pour qu'ils puissent trouver au moment adéquat la parole adéquate. Vous avez bien constaté qu'autrefois, le ton et l'élan de la prédication que nous avons entendue ici était différent dans les années 70 et dans les années 80 encore. Mais depuis qu'il est traduit, c'est nécessaire que que les traducteurs comprennent eux-mêmes d'abord chaque parole, chaque phrase, pour qu'ils puissent aussi la transmettre et la rapporter dans l'autre langue. Que la parole puisse produire son effet sur vous et en vous. Et qu'elle produise l'effet pour lequel elle est envoyée. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas la voix à haute. Donc, ce n'est pas en criant. Non, mais c'est la parole de Dieu, c'est elle qui produit l'effet pour lequel elle est envoyée. Et c'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir en ceux qui la reçoivent. En ce qui concerne les événements des temps actuels, principalement nous intéresse ce qui se passe avec Israël. Et là, nous avons tout un nombre de, nous avons reçu tout un nombre de emails qui traitent ce qui se passe en ce moment avec le Vatican et avec Israël. Les négociations n'ont pas lieu avec les gouvernements, avec le gouvernement, avec le gouvernement de Jérusalem, mais a lieu avec les rabbins. Ce sont des négociations desquelles le gouvernement n'est même pas au courant depuis 10 ans déjà. Et attrapez-vous bien. Oui. Il s'agit de territoire. Il s'agit de territoire, mais pas seulement ça. Il s'agit aussi de la montagne de Sion. Il s'agit de la montagne de Sion. Et sur la montagne de Sion, il y a un bâtiment principal qui est connu en tant que la haute salle, la salle haute, la chambre haute, là où pour la dernière fois le souper du Seigneur, le souper a été tenu avec le Seigneur, et nous qui étions encore là-bas, jusqu'à maintenant encore nous sommes saisis de cet endroit, quand dans la chambre haute nous avons chanté des chœurs et que nous avons adressé notre adoration à Dieu le Seigneur, pas seulement qu'il y ait eu un dernier souper là-bas, mais c'est le déversement du Saint-Esprit qui a eu lieu dans cet endroit. Et la parole du prophète Ésaïe au chapitre 2 pouvait trouver son accomplissement, que la parole du Seigneur sortira de Jérusalem et que l'enseignement sortira de la montagne de Sion. Ésaïe 2. Et cela n'a pas suffi d'avoir... Cela ne suffit pas au Vatican, vous voyez, de recevoir tous les différents autres territoires sous leur domination. Ils veulent aussi cet endroit-là qui est une partie de la montagne de Moria, là où Abraham a sacrifié Isaac, donc la montagne de Sion. C'est justement là où se trouve la chambre haute. Ils veulent aussi avoir cet endroit. Déjà le 30 avril, il faut que cela devait être déjà signé. Et ici, il est dit, Israël, le contrôle d'Israël sur la montagne de Sion, et la montagne de Sion est en danger. Ensuite, suivent tous les autres titres. 10 ans de négociations doivent maintenant arriver à leur fin. Et ensuite, ils entrent dans les détails des choses et décrivent tout ce qui se passe et la signification des choses et l'intention qu'ils ont avec ces négociations. S'il n'y avait pas une parole prophétique concernant tous ces événements, nous n'aurions même pas parlé de cela. Et je voudrais au moins lire au moins 2 ou 3 versets, seulement très rapidement, s'il vous plaît, seulement très rapidement, dans le prophète Daniel, le chapitre 8, Daniel, le chapitre 8, ici, la fin des temps nous est décrite, et aussi ce qui va se passer avec Israël, ou bien alors avec ceux qui joueront le rôle principal dans le temps venu. Daniel, le chapitre 8, versets 24 et 25.
Seine Macht wird gewaltig sein, aber nicht durch eigene Macht. Er wird
sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entretiens, dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Aussi le peuple des saints sera détruit. Il le détruira. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance. Ici en allemand, détruira, c'est mener à la perdition. Il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivait paisiblement. Et il se lèvera contre le chef des chefs. Mais quand il le fera, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, ici nous lisons dans le Nouveau Testament ce qui va ensuite se passer avec cet homme-là qui se lèvera, tel que nous l'avons lu dans Daniel, au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et culte rendu à Dieu. Ici, dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir de verset 4 et 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 4 et 9. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et encore à cela, Marc, chapitre 13, ici, nous avons la description de ce qui s'est passé autrefois lors de la première venue du Christ et aussi plus tard dans les années 70 après Christ. Et ici, nous avons aussi quelque chose qui nous est montré concernant ce qui se passe maintenant dans Marc 13. Ici, nous lisons à partir de verset 14, ensuite verset 23. Verset 14 d'abord. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, là où elle ne doit pas être, là où elle ce n'est pas sa place, qu'elle soit là. Elle n'a pas le droit d'exister là. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Ensuite, il est écrit que celui qui lit fasse attention. Autrefois, ce qui concernait le nombre, le temps, les croyants qui étaient dans Judée devaient s'enfuir dans la montagne. Mais en ce qui nous concerne, nous maintenant, et cela me devient toujours plus important, et je dois simplement le dire, si les choses qui concernent Israël et qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église épouse, déjà maintenant, prennent forme, deviennent si réelles et sont en train de se développer et de trouver leur accomplissement. Combien alors, si des choses qui vont s'accomplir seulement après l'enlèvement, déjà maintenant, sont en train de prendre forme, combien alors le retour de notre Seigneur est proche? Au verset 23, dans Marc 13, au verset 23, « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. » Et ensuite, à partir de verset 33, simplement très important, au verset 33, prenez garde, en allemand, gardez vos yeux bien ouverts, Et nous devons comprendre que ce verset biblique-là ne fait pas mention de l'époque autrefois, mais fait mention de notre époque. Maintenant, vous avez simplement besoin de lire le verset 28 dans Marc 13. Dans Marc 13, verset 28. Ici, il est dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier est devenu tendre, a reçu des fleurs, des feuilles. Le peuple d'Israël est revenu de 144 pays, a été rassemblé. Et maintenant, la fin des temps est décrite ici. Et au verset 33, il est dit, gardez les yeux ouverts, prenez garde, veillez, et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous ne savez pas quand ce temps viendra. Mais, restez éveillés et préparez-vous, car quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et directement après cette parole, il est écrit à partir du verset 34, quelque chose qui, il n'y a pas longtemps, est devenu une interprétation qui a été interprétée parce qu'une interprétation a été ici commise. C'est à cause de l'interprétation qui a été commise qu'on ne peut plus comprendre les Écritures. Et je vous dis, je hais chaque interprétation et je ne vais pas m'excuser d'avoir dit cela. Cette interprétation consiste à ce que toute cette venue du Seigneur, là, tout ce temps avant le retour du Seigneur, on le partage en quatre passages. Il parle d'abord du temps du soir, ensuite tard dans le soir, ensuite à minuit. Il le partage en quatre temps. Et ils disent que d'abord, il y avait eu un message au temps du soir, alors que frère Branham était présent. Ensuite un message après, ensuite du temps de frère Frank. Et maintenant, c'est le temps du message et du cri du coq. Et maintenant, ça, c'est une abomination devant Dieu de dire de telles choses. Et je vais vous dire ce qui est écrit ici. Lisons sans nous arrêter. À partir du verset 33, et ensuite, vous-même, donnez-vous un jugement de la chose. Maintenant, lisons à partir du verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Ici, c'est un exemple tout à fait naturel, qui est pris pour nous dire que nous avons à veiller. Ensuite, à partir du verset 35, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir. Ici, ensuite, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ici, il ne s'agit pas d'un message au temps du soir, s'il vous plaît. Et il ne s'agit pas non plus d'un message au temps de minuit, encore moins d'un message lors du chant du coq. Mais ici, il s'agit que personne sur terre sait que quand le Seigneur reviendra, est-ce que ce sera la nuit, le matin, le soir, à minuit ou bien le matin? Personne ne le sait. Si vous allez par exemple en Nouvelle-Zélande, là-bas, c'est le matin. Et quand c'est le matin, là-bas, ici, c'est le soir, etc. Donc, il est simplement dit ici, veillez et soyez prêts, car vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Vous ne savez pas, est-ce qu'il viendra le matin, le soir ou le matin. Ici, il n'est pas parlé d'un message qui est apporté, mais il est parlé d'être prêt. Qu'il vienne le matin, qu'il vienne à midi, qu'il vienne le soir, qu'il vienne à minuit. Quand est-ce qu'il viendra, soyez prêts. Ensuite, au verset 36 et 37, il est dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Et nous savons simplement que le Seigneur a utilisé ces exemples pour nous les adresser et pour nous dire que quand le temps de l'accomplissement viendra, quand vous verrez les prophéties bibliques dans leur accomplissement, alors s'il vous plaît, soyez Donc, veillez, et car le temps alors est arrivé, est proche, est devant la porte. Et tous, nous savons, et il faut que cela soit dit en insistant, que Dieu a un plan du salut, et que ce plan du salut s'accomplit aussi avec Israël. Et Israël est dans une crise, est dans un problème, parce que autrefois ils n'ont pas reçu le Seigneur, ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et cela a été le problème qui est donc venu sur le peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu a appelé, et au temps convenable, ils seront à l'endroit convenable, et tel que Dieu a commencé avec Israël, c'est ainsi qu'il terminera aussi, achèvera aussi son œuvre avec Israël. Tel que parfois ça pourrait être triste, et tous les efforts et les fatigues que Dieu a avec l'Église et avec Israël avant d'atteindre son but avec chacun. Pensons pas en ce moment seulement à Israël et à l'Église, mais pensons chacun à que chacun pense à soi-même. Combien de fatigue, combien de difficultés le Seigneur a eu déjà avec nous jusqu'à maintenant. Dans ces jours, nous allons encore, en regard à ce qui s'est passé pour nous, nous occuper. Nous allons nous occuper encore à ce qui s'est passé pour nous. Golgotha, la crucifixion, la résurrection, l'œuvre accomplie de la rédemption, la grande réconciliation de Dieu avec l'humanité. Alors que maintenant nous étions en Israël, nous avons visité tout le pays. Nous étions devant la mer Rouge et nous nous sommes rappelés de ce que Dieu a fait alors qu'il ordonnait à Moïse de lever la verge et que Dieu a partagé les eaux, que ce soit ici ou que ce soit là. C'est tel que c'était écrit, c'est ainsi que cela s'est passé. C'est ainsi que nous avons, dans le pays de la Bible, les traces de Dieu que nous avons pu suivre dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Encore cette remarque sur, en ce qui concerne Engedi, sur la mer morte, car nous pensons à ce qui est écrit dans Ézéchiel 47, que la richesse de la mer morte, et mort veut dire morte, pas de vie, pas d'être vivant, que la richesse de la mer morte sera plus grande que celle de la mer Méditerranée, et que ce ne sont pas seulement que les gens viendront pêcher, mais que ce sera des filets pleins de poissons qui seront retirés. Dès que la source jaillira du temple, et ça c'est de l'eau qui vivifiera une eau vivante dès qu'elle atteindra la mer morte. Alors c'est Dieu lui-même. En un clin d'œil, Dieu est créateur. C'est Dieu qui, en un clin d'œil, fera en sorte que d'un seul coup, tout existera. Il parle. Et ce qu'il dit s'accomplit. Et c'est ainsi aussi qu'il y a encore tous les autres versets. Ça sert à quelque chose de les mentionner rapidement. Tous les autres endroits, que ce soit la montagne des Oliviers. Et là, nous pensons au prophète Zacharie qui a prophétisé que le Seigneur, notre Dieu, viendra et avec un pied sur la montagne, la montagne des Oliviers, et qu'elle se fendra. Si on descend à Gethsémané, ensuite nous regardons dans les évangiles Et nous voyons où le Seigneur a pleuré, a combattu dans la prière et a dit, « Oh, que cette coupe s'éloigne de moi, si cela est possible, qu'elle puisse passer à côté de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Si la coupe était passée à côté de lui, nous aurions dû la boire. Nous aurions dû la boire, mais lui, parce qu'il l'a bu, nous avons besoin de boire. Nous pouvons alors maintenant boire la coupe de bénédiction. Et particulièrement, très particulièrement, c'était très béni alors que nous étions au sépulcre, au jardin du sépulcre, alors que dans Jean le chapitre 20, nous lisons, pas loin du lieu du crâne, il y avait un jardin et que dans le jardin se trouvait un sépulcre dans lequel personne n'avait été encore reposé. Ça, c'est une chose. Mais quand on est là-bas, à l'endroit même, et qu'on peut constater que la description de la Bible est réelle, on va plus loin, on voit par le jardin, on voit en face de nous le sépulcre, le lieu du crâne, Golgotha, et on se retourne, on voit le sépulcre. Oui, il est ressuscité, il vit. Qu'est-ce que vous cherchez? Le vivant parmi les morts. Comme souvent j'ai eu à le dire, nous sommes rachetés. Le prix a été payé. La grande réconciliation de Dieu, le grand jour de réconciliation entre Dieu et l'humanité a eu lieu. Celui qui reste dans son état de perdu reste ainsi dans sa propre responsabilité. Il n'a pas besoin de se plaindre. Celui qui ne reçoit pas ce que Dieu pour notre rédemption a accompli et ce qu'il a accompli et accordé par sa grâce. Et pensez encore une fois, ce n'est pas avec de l'or ou bien de l'argent que nous avons été sauvés comme rachetés, comme Pierre le dit, mais avec le sang précieux de l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons dans Lévitique au chapitre 17 verset 11, la vie du corps est dans son sang. C'est peut-être raison que le sang pour l'expiation devait être apporté sur l'autel. Et ensuite, nous lisons dans Hébreu que notre Seigneur, en tant que grand et souverain sacrificateur, avec son propre sang, est entré dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi que là-bas, il a obtenu la rédemption éternelle, qui est valable éternellement. Elle ne peut jamais être remise en question. Elle est valable éternellement. Une rédemption éternelle, Dieu nous l'a accordée. Et il nous a accordé par sa grâce la vie éternelle. Donc, acceptons cela, acceptons ce que Dieu par sa grâce, nous a donné, accordons et acceptons ce qu'il a préparé pour nous avant même la fondation du monde. Pensons un peu avant qu'il y ait un monde, c'est-à-dire avant même la fondation du monde. Dieu avait déjà fait son dessein du salut qu'il allait accomplir dans les déroulements des âges. Il a déjà planifié dans l'éternité. Et c'est ainsi que il t'a inclus avant même la fondation du monde dans ce plan pour que nous puissions lui appartenir par sa grâce éternellement. Pas la religion, mais recevoir la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans Apocalypse, le chapitre 9, nous lisons en fait de quoi il s'agit, c'est-à-dire, et cela doit être dit en insistant, il s'agit de notre préparation pour ce jour glorieux qui, n'est-ce pas, se rapproche. Apocalypse, chapitre 19, verset 7 au verset 9, on devrait en fait les lire d'une manière nouvelle dans chaque réunion. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Nous voulons être présents. Quand ce qui est écrit ici s'accomplira, nous voulons être joyeux. Nous voulons être dans l'allégresse. Nous voulons appartenir à ce troupeau qui pourra se réjouir d'avoir reçu la grâce et d'avoir été rendu digne de prendre part au festin des noces de l'agneau, d'avoir reçu ce privilège de former l'épouse de l'agneau. J'espère que nous pouvons accepter cela de tout notre cœur, l'épouse de l'agneau. Avant qu'Abel apporte le sacrifice et Dieu le Seigneur lui avait sacrifié deux agneaux et avait habillé, avait revêtu Adam et Ève. Depuis le commencement déjà même avant le sacrifice d'Abel, cela était déjà dans le plan de Dieu qu'un agneau perde sa vie, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, pour donner sa vie pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé alors que le peuple d'Israël a été conduit à sortir d'Israël, et pardon, de l'Égypte? Chaque famille devait immoler, devait égorger un agneau et appliquer le sang sur les lintes des portes pour que quand l'ange de destruction passe, il soit conservé, il soit épargné. Car le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je passerai en vous épargnant. Si le Seigneur nous voit sous le sang de l'agneau, en tant que peuple de la nouvelle alliance, bien aimés frères et sœurs, Satan, l'ange de destruction ne peut commettre aucun dégât, car nous sommes sous le couvercle du sang de l'agneau. Il peut se mettre en colère, il peut faire du bruit comme un lion, mais il ne peut rien faire à nos âmes. Nos âmes sont rachetées. Nous avons reçu le pardon et reçu la vie éternelle. Au verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Pas la propre justice, car de cela le monde entier est plein. Mais ici, il s'agit de la justice de Dieu. Nous avons entendu cela dans la parole d'introduction, qui nous est accordée par la foi qu'avait Abraham. Qu'est-ce qui a justifié Abraham? Qu'est-ce qui a pu justifier Abraham? C'était sa foi dans ce que Dieu lui avait promis. Et c'est ainsi que nous voyons que la foi est nécessaire, et la foi vient de la prédication, de la parole de Dieu. Ensuite, au verset 9, il est dit, l'ange me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Déjà d'être invité, c'est une bénédiction. Déjà d'être invité, d'avoir été invité, c'est déjà la bénédiction. C'est déjà le car la ici la relation entre invitation est liée à la bénédiction. Ici il est écrit sur encore au verset 9. L'ange me dit, écrit, bénis ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes invités à venir au Seigneur. Nous sommes invités en tant qu'église, épouse, à venir au grand festin des noces de l'agneau dans la gloire. Et cette invitation est seulement accepté et reçu par ceux qui réellement, avant même la fondation du monde, ont été déterminés à cette invitation. Tous les autres ne considèrent même pas cela. La parole d'invitation ne les touche pas, n'a rien à leur dire. Mais tous ceux qui appartiennent à l'église épouse sont touchés par la parole qui contient l'invitation et viennent au Seigneur. Ensuite, dans le chapitre 21, dans l'Apocalypse, nous voyons, Apocalypse chapitre 21, au verset 2, « Et je vis descendre du ciel, d'après de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » C'est écrit dans cette lettre circulaire, tant que je pouvais l'entendre, déjà, maintenant déjà aussi en français et en anglais, ici, elle est à vos dispositions, ici dans la salle aussi. J'ai écrit dans cette lettre circulaire que maintenant le temps de la préparation véritable, la véritable préparation de l'Église épouse a lieu maintenant. Ça n'a aucun sens de s'occuper à autre chose ou bien avec autre chose, avec d'autres personnes en tant que personne. Mais il s'agit de s'occuper de soi-même. Quel est mon état devant le Seigneur? Cette préparation qui a lieu dans notre cœur, doit avoir lieu maintenant. En ce qui concerne ce qui est nécessaire dans ce contexte à comprendre et qui est absolument nécessaire, c'est que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas parler même d'une préparation, que dans aucun cas nous acceptons de sortir des Écritures. Mais comme notre Seigneur dans l'Évangile de Jean, le chapitre 15, disait, si vous demeurez au verset, oui, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, c'est ce qui est important maintenant. Et comme déjà je l'ai dit, nous avons des problèmes avec des frères qui vont au-delà de ce qui est écrit, qui interprètent les Écritures et font des déclarations. Je vais vous dire ce qui se passe. Alors, ce n'est plus la prédication de la parole qui est apportée, mais ce sont des discours, ce sont des discours. Je vais vous lire cela dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Et maintenant, vraiment, nous devons venir à parler de ces points. Que tous ceux qui maintenant prêchent la parole de Dieu, il faut qu'eux-mêmes, ils demeurent d'abord dans les Écritures et qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit pour faire des discours dans l'Église et conduire l'Église à sortir des Écritures, de la parole. Ici, dans 2 Timothée, le chapitre 2, ici, nous avons la description exacte dans 2 Timothée, le chapitre 2, au verset 15 jusqu'au verset 18. Efforce-toi de te présenter devant Dieu sans reproche, comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Ensuite, l'apôtre mentionne certaines choses, même avec des noms, il mentionne certaines personnes avec même leur nom, avec leur nom, et il dit au verset 17, et leurs discours rongeront comme la gangrène, leurs discours de ce nombre rongeront comme la prédication vient de la parole. Et devient une bénédiction pour ceux qui l'écoutent, et la foi vient même de cette prédication qui vient de la parole. Mais quand on quitte la parole de la vérité, on la quitte, qu'est-ce qui reste alors à dire? Ce sont des discours. Des discours. Et cela est comme un cancer, une gangrène qui ronge autour, qui ronge tous ceux qui acceptent ces choses. Je vous dis que quand on entend de tels discours, on ressent de la douleur. Et quand on entend qu'on peut même avoir, quelque part dans le futur, vous savez, quand il y a une maladie, il y a un cancer, on entend qu'on peut se laisser traiter, n'est-ce pas? Et quelque part, bon, le cancer ronge, et fait que ronger. Mais quand ici, le mot gangrène, cancer, est référé à des discours, à des interprétations. Alors je vous demande, s'il vous plaît, vous tous qui prêchez la parole, prenez de tels versets au sérieux. Et posez-vous vous-même d'abord la question. Est-ce que vous êtes dans cette catégorie de personnes-là, ou bien alors vous voulez appartenir à ceux qui dispensent droitement la parole de la vérité, qui la prêchent dans son contexte en respectant l'ordre divin? Cela est très sérieux à prendre, et nous ne pouvons pas comme ça le porter sur des épaules comme ça à la légère. Nous ne pouvons pas prendre ces choses à la légère. Nous pouvons encore lire au verset 17 et 18. Et leur discours rongera comme la gangrène de ce nombre sont Hyménée et Philète. Il m'en arrive. Qui se sont détournés de la vérité. Et c'est là le problème. Celui qui quitte la vérité, quitte en même temps le droit chemin et arrive dans des chemins tordus et dans des interprétations et dans le mensonge et dans des falsifications. Et alors cela est comparable à une gangrène. Quitter la vérité, c'est en même temps aboutir dans un chemin tordu. Ici, je vais vous lire encore ce verset dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, simplement pour vous montrer comme c'est important doctrinalement, donc d'ordonner tout à sa place divine dans la parole de Dieu. Il y a un frère là, il n'y a pas longtemps, l'un des frères a lu cette parole, et je m'excuse que dans ma naïveté je le dis, mais nous allons tout de suite le lire. Il est parlé d'un serviteur qui est aveugle. Alors ce frère l'a dit, cette parole là, ça pourrait, n'est-ce pas, te concerner. Ce frère là s'est adressé à moi et a dit, mais cette parole pourrait te concerner. Mais je vais le dire, je ne le dis pas avec esprit. Aucune de ces 18 fois où le mot serviteur dans le prophète Ésaïe, au chapitre du verset du chapitre 41 jusqu'au chapitre 42, ne fait pas mention de frère Branham, de moi, ou bien d'un homme. Je vais vous lire cela ici. Et cela pour aider nos frères qui sont dans des problèmes. Nous devons aider. Nous voulons aider. Nous voulons servir. Et cela par la prédication et servir toute l'Église. Et d'abord, tendre la main de coopération à nos frères dans le ministère. Lisons d'abord de ces 18 versets dans le chapitre 41 jusqu'au chapitre 45, du chapitre 41 au chapitre 45, il est parlé d'un serviteur. Lisons quelques-uns des versets. Il est parlé ici d'un serviteur. Dans Ésaïe 41, versets 8 et 9. Il est parlé d'un serviteur. Ésaïe 41, versets 8 à 9. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Ici, cela concerne tout Israël, en tant qu'un serviteur de Dieu, qui a apporté le message de Dieu, car toutes les promesses ont été, n'est-ce pas, adressées au peuple d'Israël. Romains chapitre 9. Et ici, toi, Israël, mon serviteur. Ensuite, au verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine et que j'ai dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. Oui, Dieu avait choisi Israël pour son serviteur. Lisons dans Ésaïe 42. Ici, seulement le premier verset, Ésaïe 42, le premier verset. Le dernier mois, nous l'avons traité en partie. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Toute la description peut être considérée dans son accomplissement dans Matthieu 12 au verset 15 jusqu'au verset 21, dans Matthieu 12. C'est notre Seigneur qui, comme il est écrit ici, ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûlera et annoncera la justice selon la vérité. Jusqu'à ce que, comme il est écrit au verset 4 aussi, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Ésaïe 43, verset 10, nous lisons Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Ici encore, tout Israël est inclus dans cette parole. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous. En allemand, et vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, moi seul, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Ésaïe, chapitre 44, verset 1 jusqu'au verset 3. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Ensuite, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44, verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Ensuite arrivent les promesses en regard à notre Seigneur et Rédempteur. Dans Ésaïe 49, versets 5 et 6, nous lisons. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, pour que Israël soit rassemblé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Non, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous avons cette promesse merveilleuse à laquelle Actes des Apôtres 13 fait référence au verset 47 que Paul, dans sa prédication, a mentionné et inclus. Nous allons maintenant venir à Ésaïe 52 pour ici voir notre Seigneur dans sa forme de serviteur qui vint pour accomplir la volonté de Dieu. Ésaïe 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Ésaïe 53, versets 10 et 11. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Cela ne peut pas être dit plus clair que ça. Ensuite, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Les grands, il partagera le butin avec les plus, avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il faut qu'en lisant, on soit attentif, on fasse attention à où est-ce que Israël est, cela est adressé à Israël en tant que serviteur. Où est-ce que notre Seigneur est adressé en tant que serviteur? Où est le contexte? Où est la place des choses? Cela veut dire ce que Paul voulait dire. Sois un travailleur qui n'a pas besoin de rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité, qui met les choses à leur place, qui ne mélange pas tout. Ensuite, dans le Nouveau Testament, voilà comment est-ce que cela fait mention à notre Seigneur. Nous l'avons d'abord dans Matthieu, d'abord le chapitre 12, voilà les versets qui font mention à notre Seigneur. D'abord dans Matthieu 12, comme déjà dit, au verset 18, et ensuite, encore une fois, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, voilà les versets qui font mention de notre Seigneur. Ici, notre Seigneur est encore, en tant que serviteur mentionné, je lis ici, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13. Non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, Actes des Apôtres 3, verset 13, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Ici, encore une fois, notre Seigneur est décrit comme serviteur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Se convertissent donc de ses iniquités. Ensuite, dans Actes des Apôtres, nous l'avons lu déjà, mais vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que tous nos frères lisent les Saintes Écritures et respectent et retrouvent le contexte du verset qu'ils veulent considérer et enseigner le peuple de Dieu tel que cela plaît à Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, nous le répétons encore une fois, nous le disons encore une fois, il ne s'agit pas de faire des discours. Jamais auparavant comme maintenant, le dessein du salut de notre Dieu a été révélé comme dans notre âge, comme dans nos jours. Et Dieu a eu ses serviteurs et ses prophètes. Dieu avait Israël en tant que son serviteur. Et ensuite, notre Seigneur est devenu serviteur et a revêtu une forme de serviteur et était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il pouvait dire tout. Il pouvait être serviteur, il pouvait être seigneur, il pouvait être agneau de Dieu. Il pouvait être avocat et sacrificateur et intercesseur et médiateur. Et il est tout en tous. Mais tout à sa place directe, voulu. Là où elle a sa place, c'est là qu'elle doit rester. Et c'est à sa place que les choses doivent être considérées. Et nous avons trouvé justement cette grâce devant la face de Dieu de dispenser droitement toutes choses en mettant les choses à leur place. En considérant simplement le contexte sans rien déplacer. Et les contextes, je voulais lire les contextes qu'ils ont, que ces personnes-là ont mentionné à ma personne. Mais s'il vous plaît, ce qui est sûr, je peux vous dire que je ne suis retrouvé nulle part dans Ésaïe, ne vous inquiétez pas. Dieu a eu ses serviteurs dans l'Ancien Testament, les prophètes. Ensuite, Dieu a pris tout Israël et a dit, vous êtes mon serviteur, mes témoins. Je vous ai déterminé à rendre témoignage de moi. Vous êtes à mon service. Et ensuite, notre Seigneur lui-même est appelé serviteur. A revêtu la forme de serviteur. Oui, je l'ai trouvé, ce que je voulais dire dans Ésaïe. Dans Ésaïe, chapitre 42, versets 18 et 19. Ésaïe 42, versets 18 et 19. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Ils ont mentionné ce verset-là à ma personne. Dieu lui-même a dispensé les choses à leur place dans sa parole. Israël, qui était devenu sourd et aveugle, tel que le prophète Ésaïe déjà l'a dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. À qui est-ce qu'Ésaïe adressait cela? Et le Seigneur lui-même a établi le jugement. Et il a dit, oh, quand on lit de tels versets, on doit regarder le contexte. On doit même repartir au chapitre 41. Là où pour la première fois dans Ésaïe, le mot « mon serviteur » est écrit. Pour voir à qui est-ce que cela est adressé, le mot « sourd et aveugle ». Cela concerne Israël. C'est Israël qui est devenu sourd et qui était aveugle. Quoique serviteur, mais malgré tout, n'a pas reconnu ce que Dieu dans son temps autrefois avait fait. Voilà la parole dispensée droitement. Aussi dans 1 Jean, avant de conclure ce sujet, dans 1 Jean le chapitre 4, j'ai simplement cela très beaucoup, j'ai beaucoup cela dans le cœur, dans 1 Jean le chapitre 4. Ici, l'homme de Dieu vraiment a dit quelque chose qui doivent nous toucher le cœur à tous. Dans 1 Jean, le chapitre 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Maintenant arrive. Oh, que tous les frères dans le ministère écoutent, tous les frères qui prêchent écoutent. C'est par là que nous connaissons, que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oui. Celui qui est de la vérité, il écoute ce que l'esprit de la vérité dit. Et l'esprit de la vérité parle seulement par les Écritures. La parole demeure éternellement. Mais alors il y a encore un esprit, il y a encore un autre esprit. Mais l'esprit appelé l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. En allemand, l'esprit de tromperie. L'esprit de la tromperie. Revenons ici. Aussi certain que l'apôtre était certain de ce qu'il disait, l'apôtre Jean. Il savait qu'il agissait sous un mandat de Dieu et qu'il apportait la parole agissant de la part de l'Éternel. Il dit ici, celui qui connaît Dieu, celui qui a reconnu Dieu et celui qui a été reconnu par Dieu, celui qui vraiment a expérimenté Dieu, nous écoute. Et maintenant, nous arrivons aux trois cercles. Aux trois cercles qui m'ont été représentés devant les yeux et nous tous par la prédication de frère Branham. Trois cercles. On peut être baptisé et même être rempli du vrai Saint-Esprit, mais dans le deuxième cercle, dans l'esprit, mais même pas dans notre âme convertie et née de nouveau. Maintenant, il s'agit de ce que l'œuvre de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, ait lieu dans l'être de plus intérieur de notre cœur, dans notre âme. Il faut que l'âme soit convertie, régénérée, transformée et née de nouveau pour que notre relation avec Dieu soit de notre âme. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est une parole très sérieuse. Et il est dit ici que nous devons par cela reconnaître quelque chose. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Oh, si maintenant nous allons à l'évangile de Jean, là le Seigneur parle et parle de l'esprit de la vérité qu'il enverra lui. Il parle du consolateur. Il parle de l'esprit de la vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe avec l'esprit de l'erreur, de la tromperie de l'esprit? C'est la même chose. Il est décrit ici, dans toutes ces doctrines et ces interprétations, et dans tout ce qui est introduit comme pour tromper le peuple, pour tromper le peuple. Et bien, mes frères et sœurs, je vous dis, ce qui nous dérange, ce qui se passe dans toutes les églises, les dénominations, les églises d'État, les églises libres, ne nous dérange pas. Tout ce qui se passe dans les dénominations, toutes les interprétations, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est ce qui se passe dans les églises que Dieu a appelé à sortir des dénominations. Ce qui se passe partout, que cela soit leur affaire. Mais nous, nous avons à nous occuper à ce que l'adversaire fait parmi nos propres rangs. Et c'est pour cette raison que nous devons toujours apporter la correction et dire que nous devons revenir à Dieu et à sa parole et poser la question que déjà Paul posait dans Romains chapitre 3. Que dit les Écritures? Nous devons toujours poser la question. Nous avons maintenant lu ce verset. Que dit les Écritures sur le mot serviteur? Prophète. Les prophètes étaient des serviteurs, Israël était serviteur, notre Seigneur était serviteur, qui a donné sa vie pour nous. Que dit les Écritures là-dessus? Nous devons toujours poser la question, que dit les Écritures? Et fonder tout bibliquement. Aussi en ce qui concerne Matthieu 13, pas interpréter des choses et ne pas devenir le sacrifice d'interprétation et de doctrine non plus. Et que certains frères puissent écouter cela. Vous savez, la tromperie et l'erreur commencent avec des soi-disant révélations. L'erreur, la tromperie commence avec des soi-disant révélations, des choses qu'on appelle révélations. L'un a un songe, l'autre a aussi. Cette fois-ci, c'était des femmes qui avaient des songes. Cette fois-ci, c'était des femmes qui avaient des songes. Mais on doit faire attention. On doit simplement faire attention. Dès qu'il s'agit d'un songe, dans le Nouveau Testament, un songe n'a plus besoin d'être interprété. Parce qu'il est dit qu'ils recevront dans le songe des révélations. Pas qu'un songe doit... Mais déjà dans le songe, la révélation t'est accordée. Un songe du Nouveau Testament n'a pas besoin d'être interprété. La révélation doit être continue dans le songe. Un songe que tu dois encore demander à un frère pour qu'il t'explique. Ce n'est pas un songe qui vient de Dieu. Un songe dans le Nouveau Testament n'a pas besoin d'être interprété. C'est écrit, ils auront des songes. Ils auront des révélations dans les songes. Il a été dit à Joseph, dans un songe, prends Marie et ta femme. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'interpréter? Ensuite, il reçoit un songe. Il a été dit, repars, car la personne qui voulait te mettre à mort n'existe plus. Un songe qu'on doit encore interpréter, qu'on doit encore t'expliquer. On doit revenir aux Écritures. On doit abandonner tous nos soi-disant interprétations et expériences et songes et revenir aux Écritures. C'est peut-être raison que nous le disons dans l'amour, mais nous le disons au nom du Seigneur dans tout le sérieux. Et l'Église épouse a dans le monde entier le droit seulement d'écouter la vérité et seulement par le Saint-Esprit être conduit dans toute la vérité. Pas de discours, pas de gangrène de soi-disant révélation qu'on et de songes qu'on raconte aux autres. Je vais vous dire, vous pouvez le lire. Frère Branham disait, chaque, que ce soit un songe ou bien une prophétie, d'abord, n'a pas le droit d'être accepté par l'Église, si ce n'est que d'abord, trois frères l'ont examiné. Un songe et une prophétie, et il faut que trois, même signes, et pour confirmer que cela vient de Dieu. Chacun ne peut pas venir comme ça, et puis donner et raconter un songe à l'Église. Non. D'abord, on doit aller dans la pièce des prédicateurs. D'abord, dans la pièce des prédicateurs. Hein? Ensuite, tu racontes ton songe aux frères qui sont vraiment anciens. Tu leur racontes ton songe. Il faut qu'au moins il y ait trois anciens, au moins trois, au moins trois. Hein? Et tu leur racontes ton songe. Il y en a qui ne viendront plus. Il y en a qui ne viendront plus. Je vous dis que si on respectait cela, ils ne viendront plus. Ils ne vont plus venir raconter leur songe. Non, 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 non. Bien, mes frères et sœurs, si nous croyons que les prophéties bibliques maintenant s'accomplissent, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, si déjà maintenant, nous voyons les développements avec Israël qui déjà vont conduire au contrat, à l'alliance faite. Si déjà maintenant tout cela est en train de prendre sa forme, les négociations et tout atteignent leur point culminant. Alors je vous dis, nous devons comprendre que le retour du Christ est devant la porte, est très proche. C'est peut-être raison que, s'il vous plaît maintenant, nous devons croire et comprendre que, à la fin, plus rien, aucun corps étranger et rien d'étranger à l'Église n'a le droit d'être accepté par les croyants. Seulement une vérité, une prédication claire comme le cristal, une révélation claire de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, c'est ainsi que ensemble, nous allons expérimenter l'action surnaturelle de Dieu. Mais pas seulement quelque part et de quelconque. Mais je vous dis, ça, en 1979, nous l'avons expérimenté ici. Je m'accuse moi-même. Nous n'avons pas examiné. Chacun est venu avec son songe, avec sa vision, avec sa prophétie. Et nous n'avons pas examiné les choses. Et après, la personne qui a porté ses songes et ses visions et ses prophéties s'est moquée de moi. Et a dit, mais vous pensiez être, je pensais que vous étiez spirituel. Et je pensais que vous aviez le discernement des esprits. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu discerner que mes songes et mes visions et mes prophéties, c'est moi-même qui les ai inventées. C'est moi-même qui... Croyez-moi, cette personne m'a dit cela. Je vous dis qu'on doit soi-même passer par des difficultés pour ensuite comprendre ce que veut dire que tout doit être examiné. D'abord, l'adversaire, avec toutes sortes de ruses, vient avec des esprits. Et je vous dis que la falsification, un billet falsifié, ressemble à un vrai billet. Mais c'est une falsification. Et l'esprit de l'erreur reste l'esprit de la vérité. Pour être falsifié, il faut que c'est l'apparence de la vérité. Et je vais vous dire, bien le frère, nous avons assez passé par des épreuves et par des expériences. La tromperie et la falsification étaient tellement vraies. Oh, le racine du Seigneur était tellement... C'était si, ça semblait si vrai. Et c'était pas ainsi du Seigneur. Mais alors quoi? Quoi? Alors, la grande catastrophe a eu lieu seulement parce qu'on a laissé des choses, on a supporté des choses. Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous le disons à nos frères dans le monde entier, de prêcher seulement ce que tu peux prêcher avec la Bible. Ne pas interpréter et déplacer un seul chapitre et un seul verset. Laissez tout dans le contexte tel que c'est écrit et appuyez chaque déclaration dans la prédication par deux ou trois versets bibliques. Résumons ensemble. La prophétie biblique s'accomplit devant nos yeux, avec Israël et en tout, en général. C'est une chose, quand on lit qu'il y a des temps de disette qui viendront et qu'il y en a qui seront comme ça, l'amour se refroidira, il y aura des faux Christ et tout ça. Et quand nous entendons que Nous n'avons pas besoin, de nous étonner. Il faut que cela arrive dans la fin des temps. Il y aura le désespoir. Il faut que cela soit ainsi, car c'est ainsi que c'est écrit. Les Écritures doivent toutes choses s'accomplir. Ensuite, il y a encore un regard que nous pourrons tourner vers Israël. Oui. La montagne de Sion. Elle appartient à Dieu. Je pourrais vous lire les versets. Elle appartient à Dieu. Que le Seigneur habitera sur la montagne de Sion. Mais pas l'Antichrist. Non. Non. Mais, il veut aussi l'esprit de tromperie et de l'erreur est là, puissamment. L'esprit de l'erreur est puissamment à l'œuvre. Et tous sont trompés et conduits dans l'erreur. Je pourrais vous lire ça. Tout le monde islamique, tous, toutes les 22 nations, ici, il est écrit. Depuis 1944, ils se sont unis, ils se sont liés. Et maintenant, de quoi il s'agit? Oui. Un grand développement entre l'Arabe Liga et le Vatican. Partout, ils disent qu'ils font, de grandes réussites, Mais bien, mes frères et sœurs, j'ai rien à voir à faire avec la politique. Mais quand ici il est écrit, le pape rencontre des représentants des pays arabes et il s'agit des négociations pour la paix, etc. Ils sont en train de négocier partout, ils négocient avec tout le monde. Ici, les gens sont pris en photo ensemble, une belle photo des représentants de ces groupes arabes. Et ensuite, cette photo de ces dignitaires-là, ici, l'une du souverain, donc des grands, du représentant des Arabes, et encore le grand rabbin est aussi en photo ici, tous ensemble, ils sont tous ensemble sur la photo, la tromperie partout. Mais l'Église du Dieu vivant, l'Église épouse, n'a pas le droit d'être trompé et n'a pas l'esprit de l'erreur, mais elle a l'esprit de la vérité. Et la parole de Dieu est la parole de la vérité. Et nous sondons les Écritures et nous remercions Dieu. Je voudrais encore le dire, j'aimerais vous lire cela. Nous remercions Dieu pour l'envoi de son serviteur, le prophète Frère Branham. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cela, car sans son ministère, moi aujourd'hui, je n'aurais pas eu de ministère. Sans le ministère du prophète, moi aujourd'hui, je n'aurais pas eu de ministère. Et après le retour à la maison de Frère Branham, rien ne se serait passé sur terre, mais si Dieu n'avait pas fait grâce. Mais c'est Dieu qui a ordonné que Frère Branham emmagasine la nourriture. Mais jamais Frère Branham a reçu l'ordre de la distribuer. Jamais. Seulement de l'emmagasiner. Et ensuite, je me suis écrit cela dans la Bible, alors qu'il lui a été dit que son message sera précurseur du retour du Christ, tel que le message de Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue du Christ. Bien, frères et sœurs, nous avons affaire à une partie de l'histoire du salut divin que nous avons déjà expérimenté et nous sommes en train d'expérimenter maintenant la deuxième partie, la dernière partie. Et tous ceux qui croient la parole prophétique et qui croient les promesses que Dieu voulait envoyer un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Tous ceux qui croient cela, c'est à cela que la parole de Dieu sera révélée et l'esprit de la vérité nous conduit dans toute la vérité. Et alors, ce n'est pas un homme que nous glorifions. Nous remercions Dieu pour tous ces ustensiles, ces outils, mais même le plus grand prophète ne peut que être un écriteau, pas le chemin lui-même, mais seulement une pancarte au Seigneur, mais pas le chemin. Mais le Seigneur, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Il est tout en tous. S'il vous plaît, acceptez cela. Golgotha, l'endroit de repos. Ici, je peux me reposer. La paix avec Dieu. Le pardon, la grâce et le salut. Acceptez ce, Alexis, cette œuvre. Le sépulcre est vide. Sa résurrection est la garantie pour notre résurrection. Ordonnons tout de manière biblique. Et nous voulons nous laisser nous-mêmes ordonner bibliquement. Je suis reconnaissant à Dieu de tout mon cœur de ce que l'ordre divin, l'ordre divin dans l'Église est rétabli. Et le respect devant la parole de Dieu revient dans le cœur des hommes. La crainte devant Dieu et la crainte devant sa parole. Et ensuite, par le Saint-Esprit, être conduit dans toute la vérité. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Est-ce que cela doit être, avoir lieu avec nous tous? Que vraiment rien d'étranger à l'Église et à la parole de Dieu, nous puissions prêter nos oreilles à ces choses, mais que Dieu le Seigneur puisse ouvrir nos oreilles seulement pour sa parole, pour sa vérité, pour son esprit. Qu'à lui soit la reconnaissance pour cette parole, pour la Bible, pour tout le contexte, pour toutes les liaisons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quoi que concerne le sujet, ici, tout est écrit. Et nous en sommes très reconnaissants de tout notre cœur à Dieu. À lui, qu'il puisse ouvrir notre intelligence pour les Écritures et qu'il nous conduit par l'Esprit de la vérité, dans toute la vérité, et qu'il puisse éloigner de nous pour toujours l'esprit de mensonge et d'erreur. Êtes-vous d'accord? Amen. Êtes-vous d'accord? Qu'il puisse éloigner de nous pour toujours, l'esprit de l'erreur, pour toujours, pour que ce soit seulement Dieu qui reçoive ce qui lui revient de plein droit par nous tous. À lui, le Dieu Tout-Puissant, appartient tout l'honneur, la gloire dans le Saint Nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Peut-être que nous chantons encore un chœur ensemble. Oh, je voudrais voir celui qui est mort pour moi.
So wie ich bin, so muss es sein.
Der Gott ist am Ende. Nous baissons nos têtes et restons dans la prière devant la face de Dieu. Je voudrais vous demander, est-ce que nous avons quelques-uns parmi nous qui n'ont pas encore expérimenté la certitude de leur salut, qui n'ont pas encore expérimenté une conversion, et qui n'ont pas encore consciemment consacré leur vie, donné leur vie au Seigneur, qui n'ont pas encore reconnu que tous nous sommes nés dans le péché et livrés à la mort sans espérance déjà dans ce monde, de notre naissance, qui n'ont pas encore reconnu qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Dépêche-toi et sauve ton âme. Permettez d'être accordé, d'être sauvé. Accordez au Seigneur de vous sauver. Permettez au Seigneur de vous sauver, car il a accordé votre salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a accompli votre salut. Acceptez le salut, acceptez. Et je vous le dis tel que Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5 a dit, nous vous demandons de tout notre cœur, en tant qu'ambassadeur de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez la rédemption, acceptez la réconciliation, acceptez le pardon, acceptez la grâce. Et dans l'éternité, vous remercierez Dieu pour cette réunion ce soir. Maintenant, nous allons courber tous nos têtes dans la prière, fermer les yeux. Je demande encore une fois, qui veut lever la main pour que nous puissions vous inclure dans la prière? Avons-nous? Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Partout. Merci. Ô Dieu béni, particulièrement tous les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Cela vient dans mon cœur. Que Dieu puisse particulièrement pour tous les adolescents, pour tous les jeunes qui grandissent dans une maison où les parents sont croyants. Et maintenant, qu'ils puissent eux-mêmes venir au Seigneur et expérimenter eux-mêmes le Seigneur personnellement. S'il vous plaît, acceptez cela maintenant. Dieu vous l'offre, mais vous devez accepter le cadeau. Acceptez l'offre. Ensuite, accomplira tous ceux qui l'ont reçu et leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. S'il vous plaît, croyez. Croyez que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde, nous a réconciliés avec lui-même. Et que Jésus-Christ, en tant qu'agneau de Dieu, a ôté les péchés du monde en les portant. Vous n'avez plus besoin de les porter. Sur la croix, ils ont été portés et le sang a coulé, le sang de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes le peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église du Nouveau Testament qui a accepter ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Nous voulons maintenant prier pendant que tous ont levé leurs mains. S'il vous plaît, acceptez cela, acceptez cela. Prions. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous avons prêché ta parole, la parole de la foi, de la croix, et de toi le crucifié. Et nous te demandons, sauve tous ceux qui sont perdus. Délie tous ceux qui sont liés. Guéris tous ceux qui sont malades. Confirme ta parole ce soir parmi nous. Je te remercie pour ta présence, pour l'œuvre de ton esprit, pour l'action de ton esprit. Et je te demande ta bénédiction et ta grâce. Et je te remercie de ce que tu as sauvé, tu as pardonné et tu as accordé ta grâce à toi, le Dieu Tout-Puissant. Sois la louange et l'honneur pour le sang de l'agneau, pour la parole de Dieu, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et bien-aimé Seigneur, pour toujours et pour éternellement, que l'esprit de l'erreur et de la tromperie soit chassé de ton Église, et que pour toujours ce soit ton esprit qui soit parmi nous, que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Et bien-aimé Seigneur, tel que nous l'avons entendu de la parole d'introduction, que la bénédiction que tu as promise à Abraham par Jésus-Christ, elle est venue sur nous tous. Et nous te remercions pour la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction Oh, bénis aujourd'hui, bénis ce soir, de manière puissante, sauve, délivre, guéris et confirme ta parole. Alléluia, gloire et honneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit apportée au Seigneur notre Dieu. Maintenant, j'ai encore une question. Est-ce que l'Église épouse, nous l'avons tous dans notre cœur, pas seulement toi et moi, mais est-ce que tous, nous portons l'Église épouse dans notre cœur, et tous les frères dans le ministère, est-ce que nous prions pour que les frères qui prêchent aient le même langage, et les mêmes pensées, la même révélation, le même enseignement, la même inspiration, le même esprit, la même parole, que tout soit dans l'harmonie, dans l'union, que tout soit ramené dans l'état primitif. Prions pour ça. Ça ne sert à personne d'écrire quelque chose sur Éphésiens 4, verset 11, et de dire que Dieu a établi dans l'Église un ministère. Il faut que les ministères soient manifestés. Et il ne s'agit pas de frères qui se déclarent quoi que ce soit. Le temps est arrivé où Dieu lui confirme sa parole, où ce que lui, il a promis et ce qu'il a dit devient une réalité. Et nous remercions le Seigneur. Cela va s'accomplir bientôt. Dieu va accomplir chaque promesse et chaque parole sera telle que Dieu l'a dit. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur. Vous pouvez encore vous asseoir. Nous espérons que tous ceux qui ont écouté, dans toute l'Afrique, dans l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et jusqu'à et la Nouvelle-Zélande, en Chine et partout, que tous ont été bénis par la prédication simple. Mais soyez sincères, comment est-ce que notre Seigneur a prêché? Il a donné des exemples de la nature, il a pris des exemples de la nature, et ainsi, il a dit aux gens des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Nous n'avons qu'une seule chose dans le cœur, c'est que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit avec nous, et que sa volonté est lui dans l'Église épouse, déjà telle qu'elle a lieu au ciel, et que une telle harmonie parmi le peuple de Dieu règne telle qu'elle existait au commencement. Un seul cœur, une seule âme. Avez-vous le souhait? Avez-vous le désir de devenir un seul cœur, une seule âme? Dieu le fera par sa grâce. Aujourd'hui, le cœur pourra, la chorale pourrait encore chanter un chant, mais le chef de chant n'est pas là. Qui propose un cœur que nous pourrions chanter? Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur.
Bruder, ja, wer nur kann.
Frère Schmidt va encore prier. Père céleste, nous te disons merci pour les promesses, le fleuve de bénédiction. Seigneur, au ciel, tu l'as envoyé et tu l'as envoyé ici sur cette terre à ton peuple et pour ton peuple. Ainsi, nous te demandons, mon Dieu et Seigneur, accorde-nous à tous ta grâce pour que nous puissions le saisir, le croire et te remercions pour cela, ô Dieu du ciel. Nous te remercions de ce que tu es le même encore aujourd'hui, qui, de la bonne manière, accorde tout dans le bon contexte, ainsi accorde-nous des oreilles pour entendre et des cœurs pour recevoir, ô Dieu, pas seulement pour recevoir, mais aussi pour bien écouter et pour le mettre en pratique. Mon Dieu, je te remercie et te demande aussi, Seigneur, nous venons à toi, comme déjà dit, nous t'apportons tout, aussi tous nos jeunes frères et sœurs, les adolescents, touche à cœur, accorde ta grâce en toutes choses. Mais nous te demandons aussi à tous ceux qui se sont remis à nos requêtes. Tu connais chacun, ô Dieu. Révèle-toi, révèle ta puissance. Révèle-toi et confirme ta parole, Seigneur. Car Dieu au ciel, ta parole est la vérité. Et la vérité a délivré. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la victoire à Golgotha. Car tu as accompli toutes choses, tu as vécu toutes choses. Chaque maladie, chaque faiblesse. À toi, ta reconnaissance et chaque liaison, et nous te demandons.
Die Lösung, die du gebracht hast, Herr, lass jeden gelöst sein.
Que la délivrance que tu as apportée soit expérimentée de chacun pour la gloire de ton nom. Amen. J'entends encore Glorieux Golgotha. Ensemble. Et que nous devions encore chanter le chœur. Avez-vous tous le chœur, le texte? Avez-vous bien reçu le chœur? Fleuve de bénédiction, nous l'attendons de toi. Nous attendons de toi le fleuve de la bénédiction. Des cœurs dans la prière sont devant toi. Accorde un réveil à chacun personnellement, aussi à moi, personnellement. Accorde-moi un réveil. Que cela soit notre prière. Seulement encore ce cœur, fleuve de bénédiction au Seigneur. Frère Schmidt.
Thank you.
Und alle sagen Amen.
Et que tous disent Amen. Amen.
Gott der Herr.
Que Dieu le Seigneur laisse luire sa face sur vous, sur nous, nous, et qu'il nous accorde sa paix et sa bénédiction. Dieu voulant, jusqu'à demain, à demain, et nous demandons à tous les pères et les mères, ayez toujours les yeux sur vos enfants, sur vos petits-enfants. Ayez toujours les yeux sur vos petits et vos grands-enfants. Que aussi, en ce qui concerne cela, le séjour ici se passe dans l'harmonie pour que personne ne soit dérangé, mais que tout soit béni. En regard à ce que le Seigneur a ouvert les seaux et nous a rendu ce privilège, nous a accordé ce privilège-là, de regarder dans son dessein éternel et de faire retentir le dernier appel qui est adressé à l'épouse. Il nous a donné la grâce d'écouter cet appel, de le croire et de le suivre. Nous voulons chanter à cause de cela. Tu es digne, tu es digne. Celui qui veut lever les mains peut le faire.